L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui au Canada, un nouveau volet des Paradise Papers. On verra quel lien existe entre les paradis fiscaux et les caisses de retraite publiques. En Suisse, on fera le point sur les relations qui se détériorent à nouveau avec l'Union européenne. Au programme également, les très graves accusations contre l'armée congolaise. En Belgique, la politique migratoire pointé du doigt depuis que des réfugiés soudanais expulsés ont été torturés au retour dans leur pays. Et puis on terminera en France avec l'histoire de ce député mis à l'amende pour ne pas avoir respecté la tenue correcte exigée à l'Assemblée nationale. Voilà pour l'actualité francophone qui débute. Bienvenue à tous. En Belgique, l'homme d'affaires flamand Marc Cook va investir dans le mythique club de football bruxellois, le Sporting d'Anderlecht. On dit de lui que tout ce qu'il touche devient de l'or. Pourtant, il n'est pas parti de grand-chose. Dans les années 80, il fonde sa petite société pharmaceutique. Et il se spécialise dans quoi, Marie Van Kutsem?
Il se spécialise dans des produits vendus sans prescription. Et pour commencer, figurez-vous qu'il vendait des bidons de shampoing. Alors très vite, le succès, il est au rendez-vous. Omega Pharma, c'est le nom de sa société, grandit, entre en bourse et est revendu à un groupe américain pour 3,5 milliards d'euros 10 ans plus tard. Voilà que Marc Cook est milliardaire et il le dit, il le promet, il va investir dans l'économie belge. Il n'a pas menti, Marc Cook est aujourd'hui partout. Il a investi dans le parc animalier Peridaisa en Wallonie, dans la petite ville wallonne de Durbuy. Il investit dans des hôtels de luxe sur la côte et puis il place aussi ses billes dans le sport, dans le cyclisme, puis dans le foot. Il devient le président du KV Ostende, le club de son cœur, car l'homme est passionné, excentrique, et il l'affiche. Il a, dit-il, la plus grande collection d'œuvres du surréaliste Marcel Duchamp. Il ouvrirait bien un musée. On l'a vu aussi chanter dans un bar, debout sur les tables, bière à la main. Et on l'a vu également, et oui, dans des émissions de télé-réalité flamande.
En Suisse, Pierre-Anne Chauffat, la ministre de la Justice Simonetta Sommaruga ne veut pas d'une interdiction de la burqa dans tout le pays.
La socialiste est en effet décidée à combattre l'initiative populaire issue des rangs des nationaux conservateurs. Plutôt courageuse, elle prend le risque de lui opposer une contre-proposition, inscrire dans le code pénal qu'il est punissable de contraindre une personne à se dissimuler le visage. En clair, attaquer le problème du voile intégral par un autre biais, celui de l'homme, père, frère, mari, qui contraindrait la femme à porter la burqa. Il suffirait d'une plainte d'un voisin, par exemple. Mais il serait donc possible de la porter de son propre chef, cette burqa. Voilà qui promet un nouveau débat passionné sur la place de l'islam en Suisse.
Xavier Besson pour RFI, votre personnalité de la semaine, c'est l'ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré.
Oui, surnommé ATT, il vit en exil depuis bientôt 6 ans au Sénégal, depuis en fait qu'il a été renversé par un coup d'État. Et il fait annoncer son retour au pays pour ce dimanche. Le chef de l'État actuel du Mali l'a confirmé aussi qu'un entretien était prévu entre les deux hommes. ATT, ancien général, élu président en 2002, réélu ensuite. Il était silencieux depuis son exil, mais sa voix pourrait peser en vue de l'élection présidentielle à venir en 2019.
Laurent Terrien, au Canada, gros plan aujourd'hui sur deux jeunes qui ont été acquittés des accusations de terrorisme qui pesaient contre eux.
Oui, elle s'appelle Sabrine German, 21 ans. Lui s'appelle Elmadi Jamali, 20 ans. Ce couple d'étudiants ne sont pas des terroristes. C'est ce qu'a tranché le jury après plusieurs jours de délibération. Ils avaient été arrêtés en 2015 et accusés d'avoir tenté de quitter le Canada en vue de commettre un acte terroriste à l'étranger. Mais la poursuite n'a pas réussi à le prouver hors de tout doute raisonnable, selon le jury.
En France, grosse controverse cette semaine sur le cas du footballeur Antoine Griezmann, pris à partie sur les réseaux sociaux et aussi par des associations antiracistes. Il a été soupçonné de racisme pour s'être déguisé en basketteur noir américain des années 70, à l'époque donc des Harlem Globetrotters. C'était pour une soirée privée déguisée, alors tout y était. La tenue à bandes rouge, bleu, blanche, la perruque afro et toute la peau teinte en noir. Antoine Griezmann a parlé d'hommage, mais certains y ont vu surtout une attitude raciste, à la manière des black faces des débuts du XXe siècle, quand les acteurs grimés en noir faisaient des caricatures racistes. Ceux qui connaissent bien Antoine Griezmann rétorquent que le footballeur peut difficilement être taxé de racisme et ils dénoncent au passage une polémique navrante, surdimensionnée par l'impact des réseaux sociaux. Laurent Terrien, au Canada, votre sujet de la semaine, ce sont donc les paradis fiscaux qui profite à une vaste majorité de Canadiens.
Oui, il n'y a pas que les Canadiens fortunés et les grandes entreprises qui investissent dans les paradis fiscaux. Radio-Canada a pu constater grâce aux Paradise Papers que les travailleurs canadiens participent aussi à ce système à travers les caisses de retraite publiques. 7 des 8 plus grandes caisses de retraite se sont servies des paradis fiscaux pour investir à l'étranger, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans laquelle tous les Québécois investissent une partie de leurs revenus. La valeur des investissements de la Caisse dans des sociétés ayant recours aux paradis fiscaux s'élèverait à 26 milliards de dollars. De nombreux investissements ont transité par des sociétés établies notamment aux Bermudes, aux îles Caïmans ou par l'île de Jersey.
Et les caisses de retraite au Canada se sont défendues?
Oui, les gestionnaires de ces fonds disent respecter toutes les lois fiscales. Ils ajoutent que leur utilisation des paradis fiscaux n'a pas d'incidence sur les coffres des gouvernements puisque les fonds de pension sont exemptés d'impôts au Canada. Des arguments que n'achète pas l'un des plus importants syndicats au pays, le Congrès du travail du Canada, qui estime que les Canadiens s'attendent à ce que les caisses de retraite investissent de manière éthique et responsable et que les révélations de Radio-Canada montrent que ce n'est manifestement pas le cas.
À la veille de Noël, les relations entre la Suisse et l'Union européenne s'enveniment à nouveau, Pierre Anchauffat.
La récente visite de Jean-Claude Juncker à Berne et l'annonce simultanée par la Suisse de la libération d'€1 milliard pour le fonds de cohésion de l'Union avaient fait renaître l'espoir d'une solution rapide pour régler les derniers points d'achoppement sur un accord cadre entre la Suisse et la Commission européenne.
Et donc, espoir déçu et même douché, hein.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, même si on peut certainement reprocher au gouvernement de ne pas avoir suivi une ligne très claire et cohérente vis-à-vis de son partenaire européen. Toujours est-il que la politisation d'une question purement technique, l'équivalence boursière pour les États tiers, a été perçue comme une véritable gifle. La Commission a en effet limité à 1 an cette reconnaissance, soulignant que cette équivalence pourrait être étendue en cas de progrès suffisant dans les négociations avec Berne. À l'issue d'une séance de crise, vendredi, la présidente de la Confédération s'est contentée de lire une déclaration.
Cette équivalence boursière limitée à 1 an est pour nous une claire discrimination de la Suisse. Le lien entre ce dossier purement technique et la négociation d'un nouvel accord institutionnel entre nous et l'Europe est infondé et inacceptable. Le Conseil fédéral a l'impression que cette décision de l'Union européenne a comme objectif d'affaiblir la place financière suisse.
Doris Leuthard a ensuite souligné que le gouvernement se réservait la possibilité de revoir sa décision concernant le milliard de cohésion pour le développement des pays de l'Est. Pour éliminer les divergences qui subsistent entre Berne et Bruxelles, il faut un climat de confiance dans les discussions. On en est très loin aujourd'hui.
Xavier Besson, pour RFI, on part avec vous en République démocratique du Congo pour faire un point sur les très graves accusations contre l'armée congolaise.
Et pour cela, direction la région des Kasaï, c'est dans le sud du pays, une région marquée cette année par des violences après la mort d'un chef coutumier, Kamuina Nsapu. Des violences, on sait qu'elles émanent à la fois des miliciens de Kamuina Nsapu et des forces de l'ordre congolaises alliées à d'autres groupes armés. Et la Fédération internationale des droits de l'homme va encore plus loin. Tcherina Gérolon est l'une des auteurs du rapport de la FIDH.
Les éléments des forces de défense et de sécurité avaient tenu un certain nombre de réunions qui ont permis de planifier et d'organiser ce massacre. Le deuxième élément, c'est que les personnes interrogées nous ont indiqué leur étonnement d'avoir vu les ethnies Tchokwe, Pende et Tetela quitter le village de Cinq, mais aussi d'autres villages, quelques jours avant la perpétration des massacres, ce qui, une fois de plus, laissait supposer qu'ils avaient des informations ou des indications sur l'imminence d'une telle attaque.
Des accusations de planification des massacres et de ciblage ethnique auxquelles les autorités congolaises n'ont pas encore réagi. La FIDH, elle, n'a pas pu travailler directement en RDC. Elle a récolté des témoignages d'habitants qui ont réussi à traverser la frontière et se sont réfugiés dans le pays voisin, l'Angola.
En Belgique, cette enquête ouverte au sujet de migrants soudanais, les autorités belges les avaient renvoyés dans leur pays. Or, de retour au Soudan, ils ont été torturés. Et dans cette affaire, Marie Van Kunsem, la responsabilité du secrétaire d'État à la migration est engagée.
Théo Franken, c'est son nom, a conclu au mois d'octobre un accord avec les autorités soudanaises pour faciliter l'expulsion de ressortissants soudanais depuis la Belgique vers leur pays d'origine. Une délégation de fonctionnaires soudanais s'était rendue à Bruxelles pour identifier des migrants. Et à l'époque, l'affaire fait déjà polémique. Collaborer avec un pays comme le Soudan, souvent pointé pour son non-respect des droits de l'homme, cela met à mal la crédibilité de la Belgique. C'est ce qu'avaient affirmé des membres de l'opposition. La Ligue des droits de l'homme craignait aussi que ces fonctionnaires soudanais soient issus des services de renseignement. Et malgré tout, l'accord avait été conclu.
Et mercredi donc, Marie, des témoignages ont laissé entendre que des Soudanais expulsés de Belgique auraient été torturés.
Vous ne pouviez pas dire que vous ne saviez pas, c'est en substance ce qu'ont dit plusieurs ONG dans un communiqué commun. Selon elles, le gouvernement a violé consciemment l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui porte sur la torture. Même critique du côté de l'opposition, le Premier ministre et son secrétaire d'État à l'asile et à la migration ont été invités à s'expliquer ce jeudi au Parlement, une séance agitée. Charles Michel, le Premier ministre, s'engage.
Il n'y aura pas de rapatriement tant que la clarté et que la lumière n'est pas faite au travers de l'enquête qui a été demandée sur le sujet.
Les contours de cette enquête doivent encore être précisés, mais en attendant, des voix s'élèvent, comme celle de Karel de Gucht, qui est un ancien ministre, qui demande la démission du secrétaire d'État. Il est, selon lui, politiquement, idéologiquement et humainement incompétent.
En France, tenue correcte exigée. C'est la mise au point du président de l'Assemblée nationale. Il a dû réaffirmer l'usage de tenues conformes pour les députés qui siègent au Palais Bourbon. Ça fait suite à plusieurs incidents vestimentaires d'un député de la France insoumise, François Ruffin. Il est arrivé à la tribune de l'Assemblée vêtu d'un maillot de football vert, à l'effigie d'une petite équipe de sa circonscription. Un maillot de football qui lui a valu un carton jaune, une sanction financière décidée par le bureau de l'Assemblée nationale. Le député de la France insoumise verra son indemnité parlementaire amputée de près de 1400 euros. Et si François Ruffin avait revêtu ce maillot d'un petit club de football, c'était pour sensibiliser l'Assemblée à un amendement pour taxer les gros transferts des footballeurs. Mais le président de l'hémicycle, François de Rugy, y a surtout vu une mise en scène qui risquait d'ouvrir la porte à d'autres dérives du même type.
Notre Assemblée, ce n'est pas un théâtre où on vient avec des déguisements, un jour un maillot de foot, peut-être on parlera de la lutte contre les insecticides tueurs d'abeilles, on viendra avec une tenue d'apiculteur, ça ce n'est pas possible. Nous n'imposerons pas une tenue type, il n'y aura pas d'uniforme de député, mais il n'y aura pas à l'Assemblée nationale un défilé de costumes de théâtre.
Voilà, c'est dit, il faut préciser que le député François Ruffin qui a été sanctionné n'en était pas à son coup d'essai, il s'était déjà présenté à l'Assemblée nationale une fois sans cravate, c'est contraire aux usages, et une autre fois avec la chemise sortie du pantalon, ce qui effectivement n'a pas plu aux députés en général. François Ruffin qui dénonce aujourd'hui une sanction injuste. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité francophone. Merci aux contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera donc la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.